Europe 1. Socrate est le père de la philosophie occidentale. Il a vécu pendant le siècle de Périclès, au moment où la démocratie athénienne est au faîte de sa puissance. Mais cette démocratie fragile vacille rapidement et Socrate, au nom de la vérité, s'interroge sur ses lignes de faille. En pleine guerre du Péloponnèse, il n'hésite pas à montrer au peuple qu'il s'égare, mais la vérité se paye parfois au prix fort. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast original Europe 1 Studio. Socrate, vie et mort du premier philosophe d'Athènes, épisode 2, Ciguë et démocratie. Dans les années 410, alors que la guerre du Péloponnèse s'enlise, Socrate assiste au délitement de la démocratie athénienne. Fragilisé par les conflits incessants et l'échec de la campagne de Sicile menée par Alcibiade qui avait pour but d'étendre l'empire maritime athénien, de nombreuses cités-états tournent le dos à Athènes. Elles ne payent plus le phoros, cette contribution monétaire à la Ligue de Délos, un groupement de cités placées sous l'hégémonie d'Athènes. Comme c'est Athènes qui gère ce trésor, la réduction du phoros impacte directement ses finances. Et puis les mines d'argent du Laurion, dont la ville tire sa richesse, produisent beaucoup moins. Le coup de génie des Spartiates a été de désorganiser le fonctionnement de la mine en s'attaquant aux esclaves qui y travaillaient. Par ailleurs, les Perses ont proposé leur aide aux Spartiates pour mettre Athènes à genoux. Ils financent leur flotte qui était jusque-là leur point faible. Ces troubles politiques, économiques et sociaux aboutissent à la fin de la démocratie en 411. Elle est remplacée par un gouvernement oligarchique, les 400. Le nombre de citoyens passe de 40 000 à 5 000. La boulée, l'assemblée législative des citoyens, est supprimée. Dans l'absolu, Socrate n'est probablement pas hostile à la réduction drastique du nombre de citoyens. Dans l'élite, bien des voix se font entendre pour dénoncer l'ignorance du peuple. Ainsi, ce petit peuple serait, je cite, « désordonné, méchant, enclin à l'ignominie et mal élevé ». Autant de tares engendrées par la pauvreté, ben oui, que voulez-vous, tout le monde n'a pas le bonheur de naître riche. Cette parenthèse oligarchique ne dure que quelques mois. La stratégie d'Alcibiade rétablit la démocratie et rouvre la route du blé pour Athènes après avoir vaincu les Spartiates à Cyzique. Mais ce n'est qu'un sursaut. Sparte, cette terre de fantassins, a finalement enfanté d'un glorieux navarque. Le nouveau chef de la flotte s'appelle Lysandre et il inflige en 407-406 une cuisante défaite sur mer à Athènes. Les vaincus entendent prendre leur revanche quelques mois plus tard lors de la bataille des îles Arginuses. Les Athéniens arrachent la victoire de haute lutte. D'ordinaire, à la fin de la bataille, on secourt les marins tombés à l'eau et on récupère les corps des morts pour leur donner, dans la mesure du possible, une sépulture. Quand on a versé son sang pour la patrie, on a le droit au repos éternel. C'est comme ça à l'époque. Sinon, l'âme du défunt peut errer éternellement, sans lieu où se reposer. Mais les généraux athéniens doivent se dépêcher de quitter le champ de bataille naval pour secourir une autre flotte près de Mytilène. Ils ne laissent sur place que quelques bateaux pour récupérer les morts et sauver les derniers survivants. Et c'est là que commence une tempête imprévue. Les vents se déchaînent, les creux et les vagues ballottent les embarcations. Une retraite vers le port est obligatoire. Tant pis pour les marins à l'eau et les morts. Évidemment, en apprenant la victoire des îles Arginuses, les Athéniens explosent de joie, un bonheur, vite matinée d'indignation, puisque les corps des morts sont restés dans le monde de Poséidon. Bientôt, la fureur des Athéniens s'abat sur les généraux vainqueurs. Les stratèges, les magistrats en charge de la guerre, sont démis de leurs fonctions et les généraux se retrouvent devant le tribunal pour avoir laissé leurs morts en mer. Socrate fait alors partie de la boulée, le groupe des 500 citoyens qui veille notamment à l'application des lois. Il est même Pritane, l'un des magistrats qui encadre cette assemblée. Il observe les meilleurs rhéteurs accabler les généraux négligents avec les marins morts et faire défiler devant les juges les pères de famille en deuil, tous vêtus de tuniques et de manteaux noirs. L'effet est saisissant, les cordes sensibles vibrent, l'émotion chasse la raison. Tous les Athéniens réclament des sanctions collectives pour les généraux. Socrate est l'une des rares voix à s'élever contre cette folie. Bouleversés par l'émotion, les Athéniens ne respectent plus la loi. À Athènes, on ne fait pas de procès collectif. La sentence de mort réclamée pour les généraux est illégale. Mais les Athéniens n'écoutent pas le philosophe. Ils souffrent à cause de la guerre du Péloponnèse depuis 20 ans déjà. Ils veulent leur bouc émissaire. Les généraux sont condamnés à mort. Socrate regarde ébahi les Athéniens tuer les hommes qui leur avaient donné une victoire sur les puissances spartiates. Il sait que ce mauvais choix aura des conséquences terribles. Et effectivement, en 405, Lysandre vint à nouveau les Athéniens à Aigos Potamos avant de bloquer le port du Pirée. Or, Athènes n'est pas autosuffisante sur le plan alimentaire. Elle capitule face au spectre de la famine. En 404, la guerre du Péloponnèse s'achève sur une humiliation d'Athènes contrainte de détruire ses longs murs, les fortifications qui vont de la cité à son port du Pirée. Sa flotte est également brûlée. La ville de Socrate n'est plus rien, et une démocratie érigée sur un champ de ruines s'écroule inévitablement. Lysandre, le vainqueur des Athéniens, favorise l'émergence d'une nouvelle oligarchie, une période que les historiens appellent celle des 30 tyrans. Ces hommes, éperdus de pouvoir, pratiquent des purges pour annihiler leurs ennemis. Parmi les tyrans, il y a Charmide et Critias, deux anciens disciples de Socrate. Ce dernier tente sans relâche de ramener l'ordre dans la cité. Il exhorte les 30 à mettre fin à leurs exactions. Encore une fois, en vain. Socrate est maintenant perçu comme un donneur de leçons. Un homme qui, entouré de ses disciples, parmi lesquels Platon et Xénophon, vous aborde sur l'agora pour vous poser des questions qui vous mettent mal à l'aise et vous poussent à vous contredire tout seul. « Que penses-tu ?» demande le vieux philosophe en te dévisageant avec ses gros yeux à fleur de tête. « Ce que tu penses, si tu le dis vraiment, tu sais que tu finiras dans une prison. Alors mieux vaut te taire et condamner celui qui te questionne et te confronte à ton lâche silence quand tu n'es pas capable de penser par toi-même et d'agir en accord avec ton intime conviction. « Qui pense bien vit bien ?» s'écrie sans cesse Socrate. « Insupportable dans un monde en crise qui sait pertinemment qu'il pense mal. » Et avec ces questions, Socrate n'épargne personne. Ni la populace qui cède à ses passions violentes, ni les tyrans qui s'enivrent de pouvoir et de sang. Ce miroir tendu par les questionnements de Socrate est d'autant plus insupportable que le philosophe s'astreint à sa propre philosophie. Lui qui pratique l'introspection, il rejette les conventions sociales qu'il juge idiotes. Il a fait de l'austérité un art de vivre. Il participe au fonctionnement de la cité et s'est montré un soldat de premier ordre quand il a combattu pendant la guerre. La supériorité de Socrate écrase les Athéniens. Elle leur fait sentir l'odeur abjecte de leur médiocrité. Mais il est trop tôt pour que ceux-ci se vengent de sa lucidité. Après un an, la tyrannie des 30 prend fin en même temps que Lysandre perd ses prérogatives à Sparte, car c'est bien lui qui tirait les ficelles des 30 marionnettes sanguinaires athéniennes choisies par ses soins. Les Athéniens votent des mesures d'amnistie pour oublier les exactions passées, mais ils n'ont rien à reprocher directement à Socrate, à part d'avoir été le maître d'Alcibiade et de Critias et d'avoir osé critiquer les dysfonctionnements de la démocratie. Au début de l'année 399, ils osent enfin s'en prendre à lui. Socrate est conduit en prison dans l'attente de son procès dans le cadre d'une procédure de graphé habeas, c'est-à-dire un crime commis contre la cité, et ce crime très grave dans l'Antiquité, c'est l'impiété et la corruption de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement ? L'impiété dans l'Antiquité, c'est une offense faite aux dieux, un outrage qui peut se traduire par leur colère et le malheur pour toute la cité. Dans les faits, on lui reproche de ne pas révérer les divinités et d'introduire de nouveaux dieux dans la cité. Bon, il est vrai que Socrate ne court pas les sanctuaires, mais selon les témoignages de ses proches, il fait toutes ses prières et participe normalement aux fêtes religieuses de la cité. C'est l'hiver quand le vieux philosophe est incarcéré. Rapidement, il tombe malade entre les murs froids de sa prison. Il fait la promesse de sacrifier un coq à Asclépios, le dieu de la médecine, s'il guérit. C'est un comportement on ne peut plus normal pour un grec de l'époque. Puis vient le procès. Il semblerait que les Athéniens soient choqués par la relation de Socrate au divin. Pour les Grecs, les dieux vivent dans leur représentation, leur statue ou un objet qui les symbolise. Socrate semble se passer de cette médiation matérielle. Seule sa petite voix intérieure le pousse à rester sur le droit chemin, et il voit ça comme quelque chose de divin. Cette petite voix, il l'appelle son démon, mais ça n'a rien à voir avec une émanation diabolique dans la religion catholique. 2300 ans plus tard, Freud aurait appelé ça le surmoi, la police intérieure, la loi intériorisée. Mais pour les Athéniens, c'est une bizarrerie, et même l'expression de sa dangereuse impiété. On accuse aussi Socrate de subvertir la jeunesse avec ses idées, son rapport impie au divin, ses questionnements malicieux posés à n'importe qui et ses rapports pédérastes. Comme l'explique l'helléniste François Chamou, les amours pédérastes étaient moins bien vues à Athènes qu'elles ne l'étaient à Sparte, où les amours masculines entre fantassins étaient normales, comme dans d'autres cités grecques du reste. Mais c'est vrai qu'à Athènes, la pédérastie est moins consensuelle. L'historien Nicolas Cartelet, spécialiste de la question, démontre à travers le théâtre d'Aristophane et les graffitis antiques que les homosexuels faisaient bien souvent l'objet de moqueries à Athènes. Enfin, c'est souvent potache, car beaucoup d'Athéniens pensaient que le véritable amour ne pouvait exister qu'entre deux hommes, car nous, les femmes, nous serions trop bêtes pour comprendre toute la noblesse de ce sentiment. Tout est bon pour vouer Socrate aux gémonies. Face à tant de haine et de mauvaise foi, Socrate ne se démonte pas. Il proclame devant ses juges mériter d'être nourri à vie au Prytané, le siège de la magistrature qu'il a exercé pour tous les bons et loyaux services rendus à la cité. C'est comme ça que la raison, la vertu et la recherche de la vérité doivent être remerciées. Mais ses juges ne sont pas du tout du même avis. Ils réclament la peine de mort. Selon Platon, son disciple, Socrate est condamné à mort par une courte majorité de voix. Il est ramené dans sa prison, où en mars, il devra boire la ciguë. Ce poison, tiré d'une plante, paralyse le système nerveux central et cause la mort par étouffement. Le produit létal donné en prison était peut-être additionné de datura ou d'opiacée, d'autres poisons qui rendaient l'agonie moins violente et plus rapide. Au jour de sa mort dans sa cellule, Socrate est entouré de ses disciples. Il tense ceux qui pleurent, car on ne peut pas entrer dans la mort l'esprit chagrin. Il demande aussi à Criton si un coq a bien été sacrifié à Asclépios pour sa guérison au début de l'hiver. Le philosophe refuse de mourir en ayant des dettes auprès des dieux. C'est bien la preuve de sa piété. Le disciple rassure son maître. Tout est en ordre. Enfin, Socrate boit son poison et meurt paisiblement, entouré de ses disciples. Socrate a su vivre selon les préceptes qu'il avait lui-même édictés. Il a bien pensé pour bien vivre, et surtout, il a fait ce que toute personne sage doit faire. Il a appris à ne pas craindre la mort, car la vie ne sert qu'à apprivoiser ce moment. Socrate ne nous a laissé aucun écrit, mais il est un personnage central dans l'œuvre de ses disciples, et en particulier dans celle de Platon. Il est le père de la philosophie occidentale, l'un des piliers de notre civilisation gréco-romaine. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, votre dame de la plume qui murmure à vos oreilles, je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.